Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans ce catch-up spécial Payback, le premier pay-per-view post-WrestleMania dédié entièrement ou presque à la brand Rouge. Je suis IRM et je suis accompagné de l'ami Ringside. Salut Ringside.
Salut.
Bon, alors un drôle de pay-per-view, hein, comme on en avait parlé lors de nos pronostics, plutôt riche en surprises. Je pense qu'en termes de pronos, je me suis bien planté. Voilà, il y a eu pas mal de surprises.
Des grosses surprises, hein. On pensait que tout allait être cousu de fil blanc, etc. Mais rien du tout, hein. Surprise sur surprise pour la soirée.
Eh oui, c'est ça, les scénaristes ont décidé, les bookers ont décidé qu'ils allaient en profiter pour tenter des choses ou faire durer d'autres. Rapidement, le kick-off, eh ben, il y avait un seul match qui opposait la Team Soft au club, Anderson et Gallows. Je vous passe le résumé, victoire de la Team Soft, hein, comme prévu, après une big boot interrompant le Magic Killer. Donc victoire comment il s'appelle, Big Cass et l'autre chevelu là,
le petit Enzo Amore.
Voilà, rien de particulier à noter. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer?
Ouais, non, rien de spécial. C'était un opteur standard, victoire des gentils, voilà. qui sont un petit peu plus malins que les méchants sur ce coup-là. Voilà, c'était, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel.
Exactement. Au moins, ça a eu le mérite de chauffer la salle. Ils ont également chauffé la salle avec un Miss TV. Et oui, Miss TV, ce soir, le Miz et Maryse, hein, accompagnée toujours de la ravissante Maryse, accueillait Finn Balor. Voilà, après avoir fait son numéro habituel, vantant à la fois les mérites de son invité, mais également en le provoquant à la moindre occasion. Ça s'est terminé comme d'habitude avec le Miz à terre, sous les coups, tombant sous les coups de son invité. Donc une rivalité, hein, évidemment, lancée entre Finn Balor et le Miz. Qu'est-ce que tu penses, juste rapidement, de cette rivalité pour toi? Est-ce que c'est un bon adversaire, le Miz, pour Finn Balor?
Ouais, c'est plutôt un bon adversaire pour son retour là, pour avoir une petite feud un petit peu sérieuse. C'est toujours du bon en top heel. Puis il a le micro, le Miz, donc il pourra se reposer un peu dessus, Finn Balor.
Voilà.
Donc voilà, bah, ça faisait un petit peu. On avait l'impression d'être à Raw, hein, dans ce kick-off là, un peu une impression qu'on aura un petit peu tout le long du show, j'ai trouvé, mais plutôt bien tourné, et puis toujours populaire Finn Balor, donc tant qu'il
incroyable,
est populaire,
hein,
tout va bien.
Cette popularité, moi ça m'étonne encore un petit peu, mais au moins il est porté par le public. Un autre qui est évidemment porté par le public, c'est Chris Jericho, qui a l'honneur de lancer vraiment le show principal, puisque ce soir il est évidemment opposé à Kevin Owens, The New Face of America, dans son rematch, dans leur rematch pour le titre US. On rappelle, hein, que Kevin Owens est parti à SmackDown, et la stipulation est qu'au-delà du titre qui est mis en jeu, le champion, si Chris Jericho remporte le match, il rejoint également le roster bleu. Alors, Chris Jericho qui a mis sa petite écharpe de Noël, avec ses guirlandes, donc qui est toujours aussi toujours un goût de la mode assez avancé, hein, assez
la mode de Paris, hein.
C'est voilà, à la parisienne, comme on dit par chez nous. Les deux anciens meilleurs amis, hein, sont devenus de véritables ennemis, et ça se voit dans le ring. Ils font preuve de beaucoup d'agressivité dès que le gong a sonné. Ils s'échangent des dropkicks, des elbows et autres cannonballs dans les barricades. Et c'est Kevin Owens, hein, qui prend le dessus. Grosse lariat, DDT et super kick. On connaît son arsenal, hein, mais le compte de l'arbitre bloque à deux, ça ne veut pas encore. Il tombe dans le Wall of Jericho, mais une fois de plus, se sauve, hein, grâce au doigt tendu, le doigt sacré qu'il a déjà sauvé la dernière fois. Chris Jericho comprend alors qu'il a peut-être quelque chose à faire, qu'il faut peut-être focaliser son attention sur ce point précis. Il entreprend donc de détruire le doigt de Kevin Owens. Il l'écrase notamment dans les marches, hein, il le piège derrière les marches en fer. Kevin Owens a le doigt cassé. Toute la stratégie de Kevin Owens tombe à l'eau. Il n'en faut pas plus pour Chris Jericho pour le replacer à nouveau dans sa prise de soumission. Et Kevin Owens est incapable d'atteindre les cordes, c'est impossible, le doigt ne veut pas se tendre. Et l'incroyable se produit, Kevin Owens abandonne, Chris Jericho gagne et reprend le titre et va donc rejoindre SmackDown. Bon, bah on s'est encore fait avoir avec ces histoires de tournées, de vacances.
C'est ça, avec ce fameux groupe Fozzy là,
qui doit en même temps
démarrer bientôt sa tournée.
Je pense qu'il va falloir peut-être acheter les albums, écouter, et savoir si est-ce que ce groupe existe vraiment. Il y a des dates.
C'est ça.
Tout le monde y croit à son histoire. Bon, bah première grosse surprise en tout cas pour ce soir. Là.
Ouais, clairement, là, ça a fait mentir tout le monde, tous les pronostics, à part j'ai appris que Giscal avait apparemment parié sur Chris Jericho, j'aurais bien aimé savoir quel était son cheminement de pensée pour arriver à ça, parce que fallait le voir venir. Avec le recul, on se rend compte qu'en fait, quand tu es drafté à SmackDown, tu prends tes ennemis avec, hein, donc Kevin Owens, il prend Chris Jericho, il prend la ceinture, il prend Sami Zayn, et on prend tout le pactage, et on y va. Je suppose que le but, c'était finalement de transformer Raw en SmackDown et SmackDown en Raw, donc voilà, la dernière pièce qui manquait, c'est fait, c'est Jericho. Après, pour le match, c'était un peu trop similaire à mon goût au match de WrestleMania.
Ouais.
Il n'y a pas eu de spot supplémentaire à part cette idée donc de travailler le doigt de Kevin Owens qui est un peu son talon d'Achille. Grosse surprise que cette victoire de Jericho. Du coup, on est un peu hypé pour voir ce qui va se passer à SmackDown. Hein.
Oui. C'est vrai qu'en soi, je suis d'accord avec toi, le match, je le trouve un peu tiède. Comme tu dis, parce que ça sentait le réchauffer, c'est vrai. Déjà que leur match à WrestleMania était bon, mais on n'avait pas senti vraiment ça n'avait pas explosé, toi. Il n'y a pas cette agressivité qui. Enfin,
ouais.
Vu la rivalité qu'ils ont eue, là, visiblement, ils vont la continuer un peu à SmackDown. Alors, ce qui est un petit peu problématique, mais bon, j'imagine que les bookers et les scénaristes ont prévu le coup, hein. Ils anticipent hein, à la WWE, j'en suis sûr. C'est que l'image autour du titre US, elle est vraiment brouillée là tout d'un coup, parce qu'on avait quand même buildé une rivalité avec AJ Styles. Une fois de plus, hein, AJ Styles qui gagne vaillamment son statut de first contender va se retrouver encore le dindon de la farce. Est-ce que le titre va être perdu par Chris Jericho dès mardi? C'est pas impossible. Hein.
Ouais, c'est ce qui s'entend de ci de là.
Ouais.
Ça peut se faire, mais en tout cas, c'est une bonne surprise. Mais parce que c'est vrai que du coup, on va se demander qu'est-ce qui va se passer pour ce titre US. Mais après le match, plutôt pas mal. Mais effectivement, on reste un petit peu sur notre fin. On pensait qu'à Mania, il s'était peut-être retenu pour pas voler le show. Là, il n'y avait pas trop de raison de se retenir, mais du coup, ça n'a pas donné quelque chose de supplémentaire. Mais comme je disais, on est plutôt hypé pour la suite à SmackDown. Donc, l'effet est plutôt réussi finalement.
La surprise, est totale, ça c'est certain. Tu parlais justement effectivement d'un match à WrestleMania où on se disait qu'ils en avaient peut-être encore gardé sous le coude, sous le genou. Deux autres, un gaillard qui s'affronte à nouveau, c'est Neville, le roi Neville, le champion de la division Cruiserweight, qui a retrouvé des couleurs grâce au roi, mais également à Austin Harris, son rival, dans une feud qui les oppose vivement. La dernière fois, Austin Harris avait perdu, mais parce qu'il s'était pris un doigt dans l'œil.
Un doigt dans l'œil, toujours ce doigt là. Hein,
toujours vraiment, ce fameux doigt, c'est vrai que je ne sais pas si
il y a
un fétichisme du doigt à Stamford. Il y en a pour les orteils, alors pourquoi pas pour les doigts. Alors donc les deux hommes, pareil, on trouve un peu le même schéma d'agressivité vraiment entre les deux, tout comme le match précédent. Ils passent beaucoup de temps à se toiser, hein, puis les hommes en viennent rapidement aux choses sérieuses avec beaucoup d'agressivité. Neville qui on a l'impression que Neville maîtrise la première partie, même si Austin Harris n'est pas en reste. Austin Harris qui est assez rusé et un peu show-off, qui a le don d'énerver le roi évidemment, qui lui prend les choses assez au sérieux. Harris qui revient avec un super plongeon à l'extérieur, là il a vraiment sorti des moves d'une clarté assez folle, il a vraiment un centre de gravité assez étrange, lui aussi de rotation assez étrange, ces deux petits gabarits là, ils sont assez impressionnants les deux. Il saute un moment du turnbuckle mais se mange les genoux du roi. Neville recommence la provocation, la roublardise. À ce moment-là, il fait montre, fait démonstration de dédain auprès du public. Il passe son temps un moment à la fois à tabasser Austin Harris qui est au sol. À chaque fois, il va voir le public et en leur balançant des. Alors, je sais pas c'était en quoi il leur parlait, parce que c'était pas de l'anglais très classique. Il leur disait des. Il jetait des sorts, je pense, de l'elfique ou du troll, je ne sais pas. Et voilà, et voyant le match, on arrive à la fin du match, et voyant le match un peu lui filer, hein, Neville commet à nouveau une roublardise, puisqu'il utilise l'arbitre comme rempart, ce qui provoque fatalement une disqualification. Donc Austin Harris remporte le match, mais ne repartira pas avec la ceinture. Affaire à suivre, hein. Ça n'est pas terminé des deux zigotos et j'ai aussi perdu un point sur mon prono là.
Ah aussi, ouais. Bon, moi j'avais parié sur Austin Harris, mais bon, je pensais le voir partir avec la ceinture, mais.
Bon, l'avantage c'est que vraiment là, on voit qu'ils prennent le temps de construire une rivalité. De longue haleine sur l'échelle de la division cruiserweight.
C'est ça, bah, ils ont les deux top stars hein, qui sont en haut de l'affiche. On va savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a ce niveau de charisme dans le roster des Cruiserweight. Donc, autant rester sur ces deux-là. Le match était exceptionnel. Hein. Moi, j'ai trouvé
le
que
match
ça allait
était
à
super.
100 à l'heure. Austin Harris, il était excellent. Là, on l'a vraiment vu sortir le gros jeu. Ça allait vraiment à 100 à l'heure. Des dropkicks un peu dans tous les sens, à tous les niveaux, à différents étages. Voilà, le finish était plutôt bien joué aussi avec cette soumission là qui est portée sur Neville qui s'en sort en agrippant l'arbitre, cet horrible arbitre que je déteste.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, c'est ce qui a amené la séquence finale où effectivement il a utilisé l'arbitre pour s'en sortir de la soumission. Et effectivement, oui, bah, tu sais, j'ai fait attention à l'arbitre vu la dernière fois. Visiblement, tu avais dit que tu étais en rivalité, que tu pensais pas un jour. Détester un arbitre de la WWE, du coup c'est vrai que le mec il s'impose quoi, c'est incroyable. Et je pense qu'il joue parce que normalement il est censé avoir une sorte de fair play supplémentaire dans cette division là. En tout cas c'était vachement mis en avant lors du 205,
je pense qu'il en profite, effectivement.
Du championnat. Mais du coup il en profite, je pense qu'il est un peu frotteur en dehors de
en
ses
plus.
Heures de travail. Hein.
C'est ça, ouais. Non, je l'ai vraiment à l'œil celui-là. Je sens que ça va y avoir un dérapage.
Non, je pense qu'ici un mois ou deux, une vieille affaire va ressortir. Il a tripoté Moranello. JBL est en train de le filmer.
Voilà, c'est ça l'histoire.
La vraie histoire.
Le départ de Moranello.
Ouais, JBL n'est qu'un écran de fumée.
C'est ça, exactement.
Est-ce que t'es content de voir la rivalité se poursuivre?
Ouais, parce que de toute façon, si on a des matchs comme ça, et puis voilà, là aussi, on se disait à WrestleMania qu'ils en avaient peut-être gardé un petit peu sous le coude. Ben là, clairement, oui, ça s'est vu, hein, puisque ça c'est nettement un cran au-dessus. Le match de WrestleMania était pas mal déjà, mais là, on était clairement un cran au-dessus. Et puis ça fait plaisir de voir des vrais matchs de cruiserweight avec la rapidité des cruiserweight, les enchaînements à 100 à l'heure. Voilà, on était loin des matchs d'heavyweight qu'on aura en fin de programme, et puis voilà, ça donne un peu de prestige à cette ceinture, le fait que Neville ait du mal à la lâcher comme ça. Donc,
ça c'est super, pour moi c'est vraiment une super idée.
Ouais.
Le match, et en plus quand t'as un bon match comme ça, et c'est bien de prendre, parce que tu regardes toutes les autres ceintures, enfin, oui, beaucoup d'autres ceintures en tout cas, les changements de champion se font assez rapidement, on prend plus trop le temps de construire vraiment des, enfin de rendre l'obstacle difficile pour le babyface quoi, qui finit par vaincre assez facilement le champion, et c'est souvent après le champion revient et on repart dans l'autre sens. Là on a vraiment effectivement un heel où tu dis il est imbattable, hein.
Parce qu'il est technique, il est intelligent, voilà, il a de la performance,
il a tout, il a total package.
Il a tout ce qu'il faut. Austin Harris, il a l'air très très fort, il était à deux doigts de la victoire.
On se doute que Austin Harris sera celui qui fera tomber le roi, mais on sait pas quand, et puis du coup, ça c'est intéressant à suivre, quoi, vraiment là. Ça, c'est plus la pause pipi. Un autre match qui n'est pas une pause pipi pour ceux qui regardaient le catch dans les années 90, c'est le match pour la ceinture par équipe avec les frères Hardy qui seront opposés à la paire irlando-suisse Sheamus et Cesaro, les Européens. Alors, il y avait eu des petites interviews backstage lors du kick-off. Voilà, on se souvient que il y avait beaucoup de fair play en fin de match, malgré les petites roublardises des frangins Hardy. On avait un peu pronostiqué, en tout cas, on avait envisagé que les Hardys allaient un peu continuer sur cette voie-là. Alors, le match commence assez rapidement. Les Hardy taguent beaucoup, évidemment, parce que voilà, il faut le cardio, il faut l'entretenir. Hein. Donc Sheamus qui se retrouve avec le match en main. Il place un Finlay Roll sur Matt, fait rentrer Cesaro. Alors Matt Hardy est isolé dans le coin, il se prend un peu tout dans la tronche, mais fait rentrer son frangin à son tour, qui place sa close line, hop, le décroche mâchoire, dropkick combo, là ça va, il place son jeu à Jeff Hardy, un splash, mais ça n'ira pas jusqu'à 3. C'est à ce moment-là que Sheamus devient chirurgien dentiste, je crois, puisque visiblement, il lui a kické dans la tronche. Et ce que tu m'as dit avant qu'on commence, c'est qu'il lui aurait arraché une dent.
Il lui a cassé une dent. Ouais.
Bon, ben voilà.
Stage de chirurgien dentiste.
Welcome back, Jeff. On passe, ça s'enchaîne rapidement. Sheamus et Cesaro qui font preuve de beaucoup d'intelligence in-ring, on va dire, pour isoler notamment pas mal les frangins Hardy. C'est assez intéressant, hein, ce mélange de brutalité et de science du ring. Ça nous rappelle évidemment une autre équipe dont on ne risque pas d'entendre parler dans les prochaines semaines.
Hein, qui aussi un problème de mâchoire.
Voilà, ce problème. Effectivement, du coup, c'est peut-être
encore cette année problème de
mâchoire. C'est peut-être un petit peu dangereux ce qu'ils ont fait avec Sheamus, du coup, si la moitié des tag teams se font décrocher les mâchoires, on va pas aller bien loin. On enchaîne. Alors à ce moment-là, voilà, Matt qui tente, je zappe un petit peu, hein, Matt qui tente un moonsault qui permet à Cesaro de placer un énorme spinning uppercut et le sharpshooter, il lui place dans le Cesaro swing également un moment, je ne sais plus si c'est avant ou après, mais c'est important de le noter parce que il était assez long, hein. Des fois Cesaro il nous propose des Cesaro swing un peu courts, je suis toujours un peu frustré quand ça arrive. Cesaro place un énorme uppercut sur Matt Hardy. Là, ça s'emballe, hein. Sheamus qui passe un énorme white nose depuis la seconde corde. C'était assez impressionnant. Gros bump là de Matt Hardy. Ils prennent encore bien les coups, hein, même si le cardio n'était plus là. Matt et Jeff, en tout cas, ils font le boulot à ce niveau-là. Matt évite le bro kick et Sheamus évite à son tour le twist of fate. Jeff qui fait le tag à l'aveugle, hein, et qui en profite pour placer sa Swanton Bomb, hein, son finish. Et donc sur Sheamus, pardon. 1, 2, 3, les champions conservent. Jeff Hardy, Matt Hardy sont toujours champions. On a une petite séquence habituelle, mais peut-être trop là, de fair play à la fin du match. Un bon match. Évidemment, quelques minutes plus tard, Sheamus et Cesaro reviennent à la charge. Ils démolissent les deux frangins, actant ainsi un heel turn bien vu. La rivalité va reprendre de plus belle. Qu'as-tu pensé de ce match et de ce twist final qui voit un petit peu Sheamus Cesaro qui sombre du côté obscur de la force.
On se demandait qui des deux allait sombrer.
Quand t'as vraiment du fair play comme ça, poussé à son extrême entre les deux équipes, tu sais qu'il y a forcément une des deux qui va...
Ça pouvait pas durer. Ça pouvait pas durer comme ça. Cesaro et Sheamus qui bascule. Moi, je trouvais que c'était un déroulé plutôt impeccable, hein. Le match était bien divertissant. Il y avait des spots dans tous les sens. Les Hardy, on est bien rassurés quand même sur leur capacité à faire des bons matchs, parce qu'ils ont toujours leur catch qui fonctionne, même s'ils sont plus... ils sont plus aussi, on va dire, bondissants qu'avant, plus aussi explosifs, mais ils ont de la bouteille. C'est un peu à la manière d'Anne Jericho, hein, ils savent comment ça fonctionne. À côté de ça, bah, les autres, ils sont très bons, hein, chez Cesaro. Sheamus et Cesaro, voilà, eux, ils sont plutôt en pleine forme. Alors, oui, Sheamus, un peu trop stiff sur ce match-là. Apparemment, il commence à se faire une petite renommée de mec un peu trop stiff dans le ring.
Ah oui.
Ouais. Donc, voilà, peut-être qu'il fasse un petit peu attention, mais bon, c'est son style de catch qui est comme ça. Voilà, bon, du moment qu'il n'y a pas de commotion. Alors, il y avait à un moment donné Jeff Hardy qui était remonté sur le ring, mais du mauvais côté, avant la fin.
Oui, pour faire le tag.
Il y a Matt Hardy qui est pas de l'autre côté quand même pour qu'on puisse faire le truc qu'on avait prévu. Mais donc, il devait être un petit peu quand même sonné. Mais bon, ils en ont vu d'autres, hein, les Hardy, ils en ont fait des matchs hardcore, en veux-tu, en voilà. C'est pas un petit coup de pied dans la gueule qui va les stopper. Mais sinon, après, clairement, sur le déroulé, le petit rebondissement scénaristique, tout ça, je trouve ça plutôt impeccable. Et puis voilà, on a envie de voir la suite. Ça fait plaisir de voir les deux méchants s'emparer des ceintures comme ça, s'imposer, faire un peu muscler la rivalité. Voilà, ça prend son temps encore une fois, mais c'est efficace quand ça arrive, je trouve.
Voilà, on faisait référence tout à l'heure à The Revival, hein, évidemment, c'est vrai que là, quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'ils prennent leur place ou en tout cas, ils vont avoir vraiment un gimmick assez proche de The Revival, hein, deux mecs bien stiffs, intelligents, bagarreurs, qui vont boire des coups. Après les matchs, tu vois.
Voilà, mais sauf qu'ils font deux fois la taille.
Sauf qu'ils sont, voilà, ils font 2m10 chacun, ouais. Mais...
Mais ouais, non, il faut des choses comme ça dans la division tag team. Il faut que ça continue sur cette lancée-là avec des intrigues simples mais efficaces. Et puis, on a quand même, parce qu'on a que des bonnes équipes au final. Hein, donc, ce serait dommage de rester.
Ah, bah là, de toute façon, Raw, votre division, ça y est, hein, c'est le jour et la nuit, comme on dit. C'est certain. Et c'est vrai que bah, finalement, les Hardy, c'était difficile de les faire passer heel dès maintenant. Hein. Je pense qu'en termes de merchandising et vis-à-vis du public en plus, leur pop est encore. Donc, c'était un peu prématuré.
Trop populaire, Cesaro et Sheamus aussi, mais finalement c'est pas si dur de les faire tourner. On verra si ça fonctionne sur le long terme, mais ils sont aussi très bons en méchant, donc y a pas de souci.
Alors, on enchaîne donc parler de la division Raw, division tag team, hein, qui avait pris du grade, hein, avec tous ces transfuges ou ces arrivées. Une transfuge de SmackDown vs Raw, c'est Alexa Bliss qui a rapidement imposé sa marque à Raw, en tout cas suffisamment pour avoir un title shot ce soir face à la championne Bayley. Et on parlait de surprise, il y en a encore eu, même si peut-être d'autres, en tout cas moi j'ai pas vu venir. Donc voilà, Bayley, la locale, hein. Attention, hein, elle est à la maison, on est à San José. Ce soir, donc évidemment, elle est portée par la foule. Bayley, plus populaire que jamais, qui va donc affronter Alexa Bliss. Alexa Bliss qui va être très très moqueuse, qui va beaucoup se moquer, hein, de Bayley tout le long du match, à la fois de son move, etc. Donc on retrouve Alexa Bliss qu'on a connue à SmackDown. Bayley qui va évidemment se battre comme une diablesse. Suffisamment pour reprendre le match en main alors qu'elle était en train un petit peu de perdre pied. Elle place, hein, ses souplesses, ses sliding close line, hein, toujours assez impressionnant. Elle obtient le compte de 2, spinning elbow depuis les cordes, mais Bliss contre la championne, la slam dans les cordes. Bayley se reprend. Elle tente le Bayley to Bayley, mais Alexa Bliss la contre pour le compte de 2. Double knees, hein, d'Alexa Bliss. Bayley lui répond avec un running knee. Top rope elbow pour le compte de 2. Et là, ça commence à s'emballer. Alexa Bliss, ça part en brawl dans les cordes. Bayley lui met un gros coup de pied. Elle contre une tentative de code red de la part d'Alexa Bliss. Sa trash talk, évidemment, hein, de la part de Bayley. Bayley qui va se retrouver la tête, la première, hein, dans le turnbuckle, qui va bah, tout simplement lui coûter le match, puisque Bliss, après une tentative de roll-up, place un DDT. Et ouais. Pour le compte de 3, Bailey qui a été sonné par ce coup de poteau. Mmh. Un poteau qui aura coûté pas mal de victoires. Déjà, WrestleMania, on se souvient de ce finish un peu hasardeux. Là, ils ont un peu retenté la même chose. En tout cas, on est dans cette même ordre d'idée. Cette fois-ci, c'est au détriment de la championne. Puisque Alexa Bliss repart donc avec la ceinture de la féminine. Troisième titre hein, déjà quand même pour Alexa Bliss. Étonnant.
On rentre dans l'histoire. Ouais. On rentre dans l'histoire parce que c'est la première à gagner le titre de SmackDown et le titre de Raw. Alors est-ce que le poteau va devenir le nouveau roll-up pour les filles hein, parce qu'avant ça se terminait toujours en roll-up. Maintenant ça se terminait tout le temps en... coup de tête dans le poteau, on ne sait pas. Mais alors, quel excellent match. Moi, j'étais ravi du début à la fin. Bailey, donc super populaire chez elle. Alexa Bliss, exceptionnelle dans le ring. Alors, elle a un petit peu limité.
Ah, sommes... Oui.
Face au public, là, le...
Ah, Ringside, nous sommes en train de... Ouais, c'est bon. On t'a à nouveau.
On est bon ?
Ouais, on est bon. Voilà. Ah, ça t'a tellement perturbé, hein, ce match.
Ouais, c'est ça, trop de bonheur, ça fait exploser les canons.
Ouais, tu disais, Alexa Bliss, oui, on en a un peu... Elle était surtout dans le trash talk et...
Voilà, mais alors ça suffit pour faire un bon match. Après, oui. les moves qu'elle devait faire, elle les a placés, y a pas eu de botch, c'était impeccable. Bailey, elle a pas son pareil pour mettre en valeur ses adversaires, ça on l'a déjà vu, que ce soit même avec des gens aussi un petit peu limités comme Nia Jax ou...
Limité,
on va dire. techniquement, hein, je suis pas là pour. Mais donc du coup, je trouve que ça donnait un très très bon match. Le coup de genou qu'elle lui met dans la tronche à un moment donné là, c'était exceptionnel.
C'était assez stiff quand même.
Ouais, bien stiff. Ouais, non, on voyait qu'elle était motivée aussi Bailey d'être devant son public là et de sortir le grand jeu là. Elle a aussi sorti un dropkick.
Il était temps, hein, je serais tenté de dire.
Ouais, mais c'est vrai qu'elle est. Il y a un booking avec elle qui est assez catastrophique, ce qui fait qu'elle
C'est merdique, hein. Il faut dire ce qui est quand même. Hein.
Ouais, non, clairement, c'est sûr. Bah là, encore une fois, même cette défaite là qu'elle a devant son public.
Alors c'est vrai que statistiquement parlant, c'est vrai, et ça j'aurais dû le prendre en compte pour mes pronos, évidemment. Faut utiliser les chiffres. Et c'est vrai que souvent le champion perd, en tout cas le local perd souvent face à son public, en tout cas plus souvent que l'inverse.
Mais je ne sais pas si c'était la soirée pour faire ça, hein, parce que ça va bien servir pour Alexa Bliss, pour lui monter sa hit, mais ils auraient pu faire ça ailleurs, quoi. Ouais. Elle avait plutôt besoin d'une victoire, quoi, Bailey. Moi, qui avait tellement d'espoir en elle, de la voir devenir le nouveau John Cena du circuit féminin, bah, c'est mal barré. Hein.
Et là, c'est vraiment incompréhensible. Parce que quelle va être l'idée derrière ? Parce que... Ok, tu donnes la ceinture à Alexa Bliss. Si derrière tu veux reconstruire une Bailey qui va chasser le titre, on l'a déjà eu ça. Elle a déjà eu ce moment-là. C'était pas bien raconté d'ailleurs. Hein. C'est pour refaire deux fois. Est-ce qu'ils se disent on va la refaire les gars. Allez, on va la retenter. Cette fois-ci, on va bien la faire. Pourquoi pas. Deux tentatives. Ok, on s'est planté pour aller chercher le titre. On aurait dû attendre WrestleMania ou j'en sais. Enfin, clairement, bon. On a déjà suffisamment parlé.
Ce qui arrive, qui est championne au bout de deux semaines, pour décrédibiliser la ceinture, c'est pas mal non plus.
Ah, c'est difficile. Hein.
Et puis, la patate chaude de nouveau. Ouais.
Et puis moi, enfin, j'ai trouvé, enfin, clairement, pour moi là, Alexa Bliss, elle a marqué des points, c'est qu'elle a pris la place de Sasha Banks par rapport à son gimmick, parce que elle est vraiment le gimmick heel qu'a Sasha Banks. Faire la pleurnicheuse, provoquer le public, se moquer des fans de Bailey, ça c'était Sasha Banks, NXT, leur rivalité d'enfer qu'elles ont eue. Là, ils mettent Alexa Bliss avec ce gimmick-là et Sasha Banks qui est encore entre deux eaux là en ce moment, à savoir si elle est gentille ou méchante avec sa copine. Je crois que d'ailleurs elle a été interviewée, mais j'ai un peu zappé en début de pay-per-view. Voilà, ça va être compliqué aussi pour Sasha Banks de.
Ouais, bah là, ils ont quelque part en une victoire de Alexa Bliss, ils ont un peu flingué Bayley, Sasha Banks, parce qu'elle va se retrouver en poste de face qui sert à rien. Et Nia Jax, qui était l'aspirante quasiment numéro 1, bah, elle a disparu du truc. Elle va pas se lancer, je pense, dans une feud avec. Avec Alexa Bliss, quoique ils avaient teasé un
oui,
petit
c'est vrai.
Peu, mais tu vas pas faire une rivalité heel contre heel chez les filles.
Non, surtout que c'est quand même deux. Enfin, c'est deux bons heels, quoi. Enfin, toi, Nia Jax, c'est une excellente heel. Elle a un personnage super intéressant qui est vraiment pratique, enfin, qui est génial pour cette division. Donc, c'est vrai que les deux-là, faut les préserver et les mettre dans deux rivalités distinctes. Donc,
ouais. Ça souffle le chaud et le froid. C'est à la fois un très bon match, mais le résultat, on est curieux de voir après. Bon. Des fois, ils savent nous faire mentir, hein, donc
oui.
Restons positifs quelque part.
Alors, je ne sais pas si on va rester positif avec le match qui va suivre, puisque c'était la grosse question du pay-per-view, une stipulation inédite, une stipulation de la Maison des Horreurs opposant Randy Orton à Bray Wyatt. C'était globalement, c'était le trending topic hein, des fans de catch, savoir mais quelle va donc être cette stipulation. Globalement, je pense qu'il n'y a pas eu de grosse surprise. On a effectivement eu une partie filmée très cinématographique à l'extérieur, dans une maison des horreurs. Ça s'est terminé dans le ring, puisqu'en fait, pour gagner ce match, il fallait commencer le match à 30 km de l'arène, du stade, dans une vieille baraque perdue au fond des bois, et après aller faire le tomber du mec que t'as tabassé, le ramener sur le ring et faire le tomber sur le ring. Bon, un peu bancal, mais ils ont réussi à raconter l'histoire. J'en prends mon fil rouge. Donc ouais, alors Randy arrive en limousine. Alors déjà, c'est pas n'importe quoi. Il est au fond des bois.
Ah, c'est quand même le champion.
C'est le Uber limousine. Alors, j'imagine trop. Vous êtes sûr que c'est ici qu'il le dépose, tu sais. Je laisse tourner le moteur. Il y avait le champagne, hein, il y avait tout qui était prêt. On pouvait voir les verres, les petites serviettes. Il était déjà quasiment prêt. Orlen Everton, torse nu, mais en pantalon quand même, parce qu'à mon avis, ça caille pas mal. Il aperçoit au loin une maison toute éclairée de bleu. Il s'en approche, il croise un tracteur qui recule tout seul.
Ah ouais, putain, j'avais oublié ça.
Donc là, on a vraiment c'est cette imagerie de film d'horreur très moderne, enfin très contemporaine. À l'une des fenêtres, et ça, je l'ai vu seulement à deuxième visionnage, parce que j'ai regardé ce match avec ma petite sœur, qui n'y connaît rien, absolument rien au catch. Et du coup, je lui dis, bah écoute, ça, à mon avis, c'est une bonne opportunité pour t'y mettre, parce que ça va être très, très n'importe quoi. Et à la fenêtre, apparaît le visage, en tout cas le visage de Bray Wyatt, là, qui a la tête retournée. C'était assez flippant. Il entre, hein, Randy Orton. Alors, il entre en défonçant la porte, hein. Visiblement, Bray Wyatt ne... Ils sont censés faire un match dans la maison, mais Bray Wyatt a condamné toutes les portes. Donc Randy Orton explose la porte, il se fait accueillir par Bray Wyatt, et la bagarre commence enfin. Dans chaque pièce, hein, le salon. Alors, chaque pièce a un univers différent. On a la salle des poupées, on a la salle Blair Witch, on a la cuisine. Voilà. C'est un univers hein, à part entière hein, qui effraie certains hommes, hein, il faut le dire.
Rien de plus horrible qu'une cuisine sale. Hein.
Qu'une cuisine sale. Et je me suis fait une petite réflexion justement dans la salle des poupées. Bray Wyatt était un peu, je sais pas si tu te souviens de Sid, le méchant de Toy Story. Qui abîme tous les jouets là. Il a grandi, il est devenu catcheur hein, parce que avec toutes ses poupées.
On va finir par l'avoir l'origine de Bray Wyatt.
Et alors, on parle de cuisine. Et ben, ça se termine à ce moment-là pour Randy Orton puisqu'il se retrouve avec le frigo écrasé sur la tronche. Une violence assez. Assez dingue hein. La musique était super, j'ai noté très film d'horreur des années 80, c'était vraiment vraiment au top. Bray Wyatt donc s'extirpe de sa maison, il a gagné, il invoque une dernière fois hein, les The Buzzards, et un rouge carmin jaillit des fenêtres. marquant visiblement la victoire. Hein, on se dit, je sais pas, c'est un signe. C'est dit, voilà. Si c'est rouge, les gars, c'est que c'est prêt à gagner. Hein. il peut rentrer en limousine qu'il a attendu. Mm. Le chauffeur, donc, alors c'est vraiment le chauffeur de taxi, il dépose un mec, il en prend un autre, hein, c'est normal, ouais, hein, y a pas de problème. Pas... Travail accompli, la limousine a rejoint le parking, entre-temps il y aura eu un autre match dont on parlera plus tard. Bray Wyatt ressort de la voiture, il est malade visiblement, il a pas pris sa coculine, il a le mal des transports, il est tout grognard, il atteint quand même le ring, il vient célébrer sa victoire. Mm. La vipère apparaît dans son dos. Randy Orton est rentré en mobylette à fond les ballons.
Ah là là, le relou, il veut pas quitter la soirée. Il a suivi jusqu'au ring.
Le match continue. RKO, intervention. Là, on est dans l'overbooking. Hein. Intervention de Jinder Mahal et ses sbires.
Et ses sbires.
Voilà, qui permettent donc la victoire de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui porte donc son sister Abigail. Bon, ringside, cette stipulation, qu'est-ce que t'en as pensé?
C'était un peu atterré, je pense, comme tout le monde devant son poste.
Il fallait avoir le bon mindset, hein, pour regarder.
Ah ouais, carrément. Ouais. Non mais même avec c'était trop long. C'était alors là. Ouais, le tracteur déjà qui part à reculons. Déjà, il débarque la maison. C'est même pas une maison hantée, c'est une maison
la nuit,
vaguement
quoi.
Abandonnée après un week-end de fiesta un peu trop chargé. On a Bray Wyatt qui rend Marcel Blanc, on dirait, je sais pas, votre voisin crado là qui est en fin de droit. tout c'était surmonté. Du coup, on n'y croyait pas 30 secondes. C'était long, c'était lourd, c'était.
Ah bah, de toute façon, il fallait croire à rien du tout, finalement. Enfin, ouais. Là, ils ont vraiment. Là où je leur. Je sais pas, je vais leur tirer mon chapeau, mais. Là, au moins, ils ont le mérite d'être allés à fond.
Ouais.
De jouer vraiment un format.
Ouais, mais quand il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent. Tu peux y aller à fond.
Ah non, mais après, il y avait. Enfin, on connaît les talents déjà d'acteurs de Randy Orton qui sont assez faibles, proches de son talent in-ring, diront certains. Mais en tout cas, en termes de format, voilà, il y avait de la musique, il y avait des caméras partout, on a joué avec les codes du film d'horreur. Bon, il fallait se dire à ce moment-là, je regarde plus du catch, je suis tombé sur une série B sur Netflix et je regarde 10 minutes avant d'aller me coucher, quoi.
Mais c'était trop long. Bray Wyatt en Marcel Blanc.
D'accord, ok. Là, visiblement, il y a un blocage.
Qui s'arrête là, je crois. Après, pour le reste, à la limite, ce que j'ai préféré, c'est l'arrivée des Bollywood Boys, là, les
Ah oui, carrément, hein, d'accord.
On les appelle et l'intervention de ce bon vieux Jinder Mahal.
C'est super. Ces sbires-là, ils sont vraiment géniaux parce qu'ils sont tout petits, minuscules. Du coup, ça fait vraiment les petits sbires du grand méchant, quoi.
C'est ça. Comme il lui ressemble un peu.
Oui, oui, oui. C'est vraiment des sbires de Dickie Larson ou des trucs. Puis il vient avec son turban à chaque fois. Là.
Alors, pour l'anecdote, la maison, je crois qu'elle est à Saint-Louis dans le Missouri. Ils l'ont retrouvée.
Ils l'ont retrouvée.
Il y avait le numéro, tu vois.
Il y avait 3325.
Petit coup de Google Maps là. Elle est à vendre.
C'est l'occasion de lancer notre Kickstarter pour Catch-Up.
Voilà, acheter la maison.
Voilà, si vous nous donnez 50 000 dollars, la contrepartie, c'est que on ira organiser une grosse fiesta dans la maison des horreurs.
C'est ça.
Ça serait énorme, ça, d'aller organiser une grosse stuff, quoi.
Eh oui.
Bon, par contre, il faut ramener un frigo parce que.
Ouais, ils ont niqué le frigo. Et donc il y a eu ce problème aussi avec le fait que c'était la nuit noire pour l'enregistrement du truc et qu'il faisait pas nuit à San José, quoi. Donc les gens qui étaient dans la salle n'étaient pas trop convaincus. C'était le petit problème du détail de toute cette histoire. C'est encore une fois quand la VVE elle tente ces trucs là généralement ça tombe à côté, encore une fois, hein, donc Et Bray Wyatt, donc, il gagne. Donc, il a battu le champion, hein, mais il n'est pas champion. Donc, et il part tout seul à Raw. Il est vraiment grugé sur toute la ligne.
Sachant que la rivalité qu'il avait lancée en se disant, bon, au moins, j'aurai quelque chose qui m'attend avec Finn Balor, visiblement, bah, il s'est fait griller la politesse par le Miz.
Enfin, par le Miz, en plus.
Le gars, il a tout perdu ce soir.
Il restera que son petit Marcel
Blanc. Y compris, non, oui, c'est ça, il a même perdu sa chemise.
C'est ça. Mais il a gagné le match.
Ouais, donc, grâce voilà, à l'intervention de Jinder Mahal, ok.
En plus, ouais.
Bon, on est en 2017, les gars, tout va bien. Bon, allez, on va enchaîner avec quelque chose d'un peu plus proche de du catch, hein, de qu'on peut appeler catch, puisqu'il le match
hein, au wrestling
qui est opposé Seth Rollins à Samoa Joe. Samoa Joe, les affaires sont devenues personnelles puisqu'il a mis la main sur Stephanie McMahon. Toujours assez bizarre, vous l'aviez souligné. C'était assez étrange comme raison. Bref, hein, Samoa Joe qui évidemment concentre toute sa force de frappe hein, sur le genou de Seth Rollins. Rollins, hein, le genou affaibli. Senton, Nibar, Fullcrab, tout y passe. Hein, il a vraiment un arsenal ouais. assez impressionnant et qui tombe plutôt à pic parce qu'il a vraiment réussi. il a adapté même, tu vois, il y avait vraiment des prises qui à la base n'étaient pas forcément faites pour
le genou.
Mais pour le genou, et là il fait ah, allez, c'est pour toi, c'est service personnalisé, c'est du sur mesure.
Voilà, si je plie comme ça, et hop, et voilà.
Ils s'échangent coup pour coup. Seth Rollins qui tient le rythme, hein, mais c'est difficile. Hein, chaque tentative de reprendre le dessus échoue assez rapidement à cause de son genou. Il y parvient enfin à la faveur d'un enchaînement qui se conclut par un saut depuis le turnbuckle. Un plongeon, il donne tout, hein, mais Joe résiste. Pire encore, Seth Rollins est pris dans le sleeper hold. Mais il fait semblant de s'évanouir pour mieux surprendre Samoa Joe dans une roulade. 1, 2, 3. Seth Rollins remporte. Samoa Joe n'est pas content. Son entreprise de démolition a échoué. Il s'est fait un peu avoir par le rusé Seth ouais. Rollins. Et voilà. Va-t-on en rester là ? Difficile d'y croire. Qu'as-tu pensé de ce match et de sa conclusion ?
Bah, c'était pas mal dans l'exécution, mais je sais pas, ça manquait d'un petit quelque chose qui fait qu'on aurait pu avoir le match de rêve que ça devrait être entre Samoa Joe et
Ah, ce n'est que partie Rollins. Remise.
C'est dès que partie remise, la hype n'était pas là pour ce match. Et bon, placé comme ça au milieu de la maison des horreurs,
voilà.
Ils étaient mal barrés. Bon, c'était plutôt bien exécuté. Seth Rollins, qui enfin fait preuve d'un petit peu d'intelligence pour l'architecte, c'est pas mal pour s'en sortir, mais il s'en sort de justesse. Dans l'absolu, ça protège Samoa Joe et puis ça fait partir Rollins sur une victoire. Je pense que c'est que le début des hostilités. On va sûrement avoir un gros match. Je crois qu'il y a Extreme Rules après, non ?
Oui, exactement. Oui.
Donc voilà, plutôt réussi, mais ça manque de punch.
Ouais, on sentait que le public aussi était on se demandait en fait quand est-ce que les deux autres zigotos allaient débarquer de la maison des horreurs, donc c'était peut-être pas à fond dedans, et puis ouais, ils en ont encore sous le genou en ce qui concerne Seth Rollins, mais bon, les bookers, va falloir qu'ils, enfin, je sais pas si les bookers ou les catchers, mais là ça fait beaucoup de rivalité où ils en regardent sous la semelle.
Ouais, mais Seth Rollins, ils auraient peut-être dû l'envoyer à SmackDown, tu vois.
C'était une des grosses rumeurs, hein. C'était une des surprises, on va dire, qu'il ne soit pas transféré. Parce que c'est vrai que là, bon, après, il y a une rivalité avec Samoa Joe. Ça a du sens à ce moment-là. Et c'est une rivalité qui, sur le papier, fait rêver, évidemment. Mais.
Mais comme elle a été un peu, ça devait se passer avant Mania.
Elle a un peu passé au second plan.
Le timing qui est pas bon, et puis ça joue à pas grand chose pour qu'une rivalité soit extraordinaire et qu'elle soit moyenne, quoi. Là,
ils peuvent tout à fait décider de les séparer dès maintenant, en invoquant une raison X ou Y pour mieux reprendre plus tard. Hein. Ça c'est pas faux. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec notre main event. puisque Roman Reigns affrontait ce soir Braun Strowman. Braun Strowman qui avait perdu leur premier affrontement justement hein, avant WrestleMania. Roman Reigns qui avait été donc lancé en direction, qui avait fait le sale boulot pour mettre à la retraite le Taker. Retour à la rivalité justement entre les deux zigotos. On nous remontre hein, ces images insoutenables. Hein, Roman Reigns qui a subi tous les sévices, hein, il est enfin de retour. D'ailleurs, hein, je te disais, j'ai regardé aussi ce match-là avec ma petite sœur et elle était choquée par tout ce que Braun Strowman a fait subir à Roman Reigns. Elle est totalement étrangère au monde du catch et qu'il l'a balancé sur la civière pour écraser face la première. Elle était relativement choquée. C'était assez marrant à regarder. Bref.
C'est le but, hein, je crois. En oui, vrai, c'est... Du coup, hein.
Oui, j'espère quand même qu'il comptait nous choquer avec tout ça. Parce que sinon... Non, tu comprends, c'est pour s'attacher à Braun Strowman.
Ouais, c'est un méta-discours derrière, tu vois.
Ouais, il y a un discours, il y a vraiment des revendications politiques derrière tout ça. Braun Strowman hein, qui réserve un accueil, Braun qui réserve un accueil digne de Strowman puisque il enchaîne un écrasement sur la table, écrasement contre les marches de fer et globalement une grosse patate dans la tronche à Roman Reigns qui est venu avec un bandage voilà autour de l'épaule. Évidemment, Roman Reigns n'est pas à 100%. Il parvient pourtant à placer son arsenal, un Samoan drop, hein, là on pensait pas qu'il passerait forcément, mais il passe, le fameux double coup de pied sauté là à l'extérieur du ring, passe aussi, même si la première fois il s'était fait contrer, Braun finit la tronche dans le poteau. Le poteau hein, qui sert beaucoup.
Satané poteau,
c'est le même en plus. Hein. C'est toujours et lui, il a le potal de l'enfer. Un de trop, puisque Braun Strowman. La bromance de Braun. Il chope le Samoan en plein vol, alors que justement Roman Reigns enchaînait, était en plein enchaînement, session de Superman Punch, mais il s'est vu trop beau. Braun Strowman hein, qui s'était relevé préalablement d'un spear, c'est bien de le préciser quand même parce que tout le monde ne relève pas d'un spear sauf ceux qui vont être envoyés à la retraite ou alors comment il s'appelle,
Finn
Balor, il s'était relevé du spear,
je pense pas, il avait gagné le match mais
l'autre c'est Shane O'Mac mais je pense que c'était un bug, tu te souviens?
Ah oui, Shane O'Mac, ouais, c'était genre
un spasme
c'était en convulsion hein. C'est pas pareil.
Donc celui-ci ne sera pas écrit dans les livres d'histoire. Bref, on revient à un autre match. Braun Strowman hein, qui chope le Samoan en plein vol, lui brise quelques cervicales et place son finisher par deux fois. Hein, attention, pour la victoire, la deuxième est la bonne. 1, 2, 3. Passage à tabac. Roman Reigns hein, qui est fini en sang puisqu'il s'est fait décapiter à nouveau par les marches en fer. Il pisse le sang, il y en a partout. C'est dégueulasse, les arbitres sont là, les médecins, tout le monde est là, les officiels sont là, mais Roman Reigns refuse la civière. Il faut dire que la dernière fois qu'il a accepté, c'était mal terminé pour lui.
Il a la phobie des civières.
C'est moins une preuve de courage que du bon sens, toi. Ça s'appelle l'expérience, toi. Et ça se termine un peu étrangement sur cette image. Je me demande s'il n'y a pas eu une petite session post-match quand même, que c'est un peu étrange de... Bon, voilà, de se terminer là-dessus, là. C'est un peu
Si, il y a eu un suivi.
Dis-moi.
Comment ça s'appelle?
Talk,
là. Ouais. Où ils ont continué à se battre dans les couloirs et apparemment, Roman Reigns aurait réussi à se défaire à peu près de Braun Strowman.
C'est souvent ce qui arrive dans ce genre de. Ouais, dans les post-match comme ça, quand le heel a dominé. Souvent, pour le public. On leur donne un petit peu de face moment, un feel good moment.
Ça.
Autant que possible, on va dire, pour cette séquence. Bon. On a eu notre victoire de Braun Strowman sur Roman Reigns.
Voilà.
Le public est juste horrible parce qu'il chantait comme You Deserve It à Roman Reigns qui était en sang, qui se faisait décapiter. C'était assez violent quand même. Ma foi, c'était un match assez solide dans son genre, même s'ils avaient quand même déjà donné un rôle pour les grosses séquences. On n'a pas eu vraiment de grosses séquences.
Ouais.
Il n'y a pas eu d'ambulance renversée.
C'est ça. C'est un peu ce qui manquait dans ce pay-per-view. C'était des bons matchs.
La table n'a même pas pété. Hein.
Ouais. Mais il n'y avait pas de spot qui va rester dans l'histoire, quoi.
Non.
Donc c'est un petit peu dommage sur ce point-là. Ouais, Braun Strowman, donc il gagne. Hein. Qu'est-ce qu'il pensait Roman Reigns qui venait affronter l'Undertaker ? Non, c'est Braun Strowman. Il le défonce. Le match, c'est du classique main event de WWE quand t'as deux gros monstres comme ça qui s'affrontent. Deux colosses, hein, des trucs... Hogan contre Géant, des machins, voilà, Recruit contre Ultimate Warrior, des Triple H contre l'Undertaker. Voilà, on est dans le classique WWE, c'était bien cool, bien violent. Strowman, c'est vraiment l'homme fort du moment, il est vraiment impressionnant dans le ring. Reigns, moi je trouve toujours impeccable aussi, que ce soit dans le selling, que ce soit dans le déroulé du match, il a tout donné. Ça se termine quand même en se mangeant des escaliers, donc c'est plutôt sympa. Dans l'ensemble, c'est un bon main event. Il fallait la victoire de Strowman pour le consolider en monstre imbattable. Roman Reigns, maintenant, il n'a plus qu'à revenir au top. Il était en position de faiblesse. Il n'aurait pas dû accepter d'affronter le monstre.
Et voilà, une leçon de vie.
C'est ça. Voilà, une première leçon pour Roman Reigns.
Et il va y en avoir beaucoup.
Voilà, et puis quelle réaction du public, effectivement. Hein. Donc ça prouve que c'est pas si con hein, de conserver Roman Reigns en pseudo-face. Ça fonctionne, les gens réagissent, et c'est ça l'important. Donc,
oui, c'est toujours pareil. Tu le fais passer heel et les réactions vont s'estomper immédiatement. Hein.
C'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'il le conserve, hein, parce que le mec fait réagir.
Il n'y a que ça qui les intéresse, de toute façon. C'est ça. C'est ce que disait Vince McMahon, hein, officiellement, c'est ça qui l'intéresse. En tout cas, c'est le discours qu'il tient dorénavant. Peut-être que c'est un discours qui s'est imposé naturellement ou difficilement pour lui, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est faire réagir le public. Hein.
C'est ça. Et je pense qu'il est content d'avoir deux gros mastodontes comme ça qui s'affrontent de nouveau. Hein.
Oui. Visuellement, en tout cas, il doit être content. Ouais.
Il est dans son truc là, il est dans son élément. Hein, et à SmackDown, il nous ressort un Jinder Mahal hyper musclé, un vieux truc, un combat gentil américain contre le méchant étranger raciste. On est dans les classiques de la WWE là, mais c'est ce qu'ils savent faire de mieux hein, quelque part. Donc c'est pas si mal.
Bon, bon petit ringside. Du haut de ton 1m90. C'est l'heure du mot de la fin. Eh oui. Alors, qu'as-tu pensé de ce pay-per-view ? En tout cas, quelle note tu lui mets ? Et ton top et ton flop, s'il te plaît.
Alors, le flop. Bon, on va le mettre à la maison des horreurs, je pense. Il n'y a rien de plus lamentable que ça, je crois, dans la soirée. La défaite de Bayley peut être un flop.
C'est mon flop.
Donc c'est ton flop, je vais te le laisser.
Merci, c'est gentil.
Voilà, parce que c'était pas bien, hein, tout simplement. C'était.
D'accord.
Ils ont mis le budget, ils ont été à fond, mais quand même, c'était.
Bon,
ça n'a pas fonctionné. Le top, je vais le mettre à Austin Harris, qui était exceptionnel ce soir. Qui a sorti un match vraiment spectaculaire à tous les niveaux. Il a monté le jeu, c'était excellent. Et la note, je vais mettre à 3,75. C'était bien, c'était solide, mais ça manquait il manquait ce petit truc, ce petit spot en plus qui aurait fait que ça serait resté dans les annales, quoi.
Alors moi, j'irai pas jusqu'à donner mon top à la stipulation, enfin, à la match de la maison des horreurs, mais moi j'avoue que j'ai pris du plaisir. Après, j'avais le bon public avec moi.
Ouais, c'est peut-être ça qui.
Ah c'est carrément ça. Je cherche pas. Je pense que genre tu regardes les mecs qui ont regardé ça en live, ils ont dû pleurer un petit peu. T'es tout seul. T'as un gros smart. Tu regardes ça. À mon avis, ça passe pas. Mon top, c'est la victoire d'Alexa Bliss. Et mon flop, c'est la défaite de Bayley. Comme ça, si vous voyez ce que je veux dire.
D'accord.
C'est cool pour Alexa Bliss, mais pour Bayley, enfin, c'est juste, enfin, c'est, on en a parlé, quoi. C'est le. Je me souviens, j'ai donné mon flop à Bayley l'année dernière pour notre récap de fin d'année. Moi, pour moi, elle est partie pour se le retaper une deuxième fois, parce que ce premier, cette première moitié de 2017 est catastrophique en termes de booking pour elle. Ils n'arrivent pas à gérer ce personnage-là.
Ouais, pour moi, il y a deux catcheurs qu'ils n'arrivent pas à gérer, c'est Seth Rollins et, et Bayley. Les deux qui ont du potentiel énorme, mais qui ils font vraiment des erreurs, quoi. C'est vraiment des erreurs de booking. Hein.
Ah oui, on est d'accord.
Exactement, ah, tout à fait.
Et enfin, ma note, eh bien, écoute, 3,5. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir comme toi à regarder ce pay-per-view. En repassant en vue là, en fait, tous les matchs étaient bons, en fait, globalement. Tous les matchs étaient bons. Certains, on aurait aimé qu'ils soient meilleurs ou avec plus d'intensité. Mais bon, voilà, il y a eu des surprises.
C'est un pay-per-view mineur d'après WrestleMania.
Voilà, hein, aussi, pour des standards, pour un pay-per-view mineur comme ça, franchement, on était pas trop chaud pour, pas forcément chaud pour le voir.
Ouais, il y avait aucune hype hein, sur le pay-per-view. Mais... du coup, c'est souvent comme ça qu'ils nous surprennent aussi.
Exactement.
C'est pour ça qu'on revient toutes les semaines.
Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, hein, évidemment, sur en audio pour iTunes, sur iTunes pardon et PodCloud pour la version vidéo avec justement si vous voulez voir Ringside comme ça. En mode éclipse, ça y est, on le revoit sur YouTube, Twitter, Facebook, les cahiers du catch, c'est catchupcdc, pardon, ou lescahiersducatch.com pour suivre, pour retrouver la team, hein, les chroniques hein, officielles du site, du meilleur site de catch au monde, également les forums pour discuter.
On va trouver mieux.
Impossible.
On a cherché, hein. On a cherché, mais il n'y a rien.
Et sinon, les forums pour nous retrouver, le Twitter, le Facebook, j'en ai parlé pour ne rien manquer. Et puis, rendez-vous cette semaine encore hein, là pour Catch Up Raw, pour avoir les retombées hein, de ce dont on vient de parler. Le lendemain, c'est Catch Up, le supplément SmackDown qui suivra, avec quelques retombées également, hein, pour ce pay-per-view Raw, finalement.
Oui, hein,
ça impacte tout le monde. Mmh. Et donc, on se retrouve dans quelques jours. Merci à toi, Ringside.
Merci, à toi.
Et je vous donne rendez-vous, donc, à la prochaine fois. Salut.
Ciao, ciao.